Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut s'empêcher de constater qu'il y a une...
Paul Capler, ancien cadre dans la grande distribution.
Dérive de l'activité grande distribution, alors qui n'est pas du tout la même selon qu'il s'agisse de sociétés capitalistiques cotées en bourse de type Carrefour ou de grosses sociétés internationales du type Auchan ou Casino, bon, voire Cora. Et puis, des sociétés comme les Super U, où ce sont des adhérents qui sont des propriétaires de magasins uniques quasiment et qui ont un mode de fonctionnement un peu différent.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous, au revoir.
Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la grande distribution est multiforme, entre 1960, grosso modo, qui correspond au démarrage de ce nouveau type d'activité, et aujourd'hui, il y a eu des modifications assez substantielles qu'on peut développer, en fait. Alors, il faut savoir que la grande distribution, enfin l'organisation des sociétés de la grande distribution, c'est une organisation hyper sophistiquée avec une organisation quasi industrielle de tous les secteurs de l'entreprise. Alors déjà, si on raisonne en termes de nombre d'emplois pour donner un ordre de grandeur de ce que peut représenter une entreprise comme ça. Alors, une grande société de distribution aujourd'hui en France, c'est 100 000 emplois, 100 000 employés, on va dire. C'est un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros, grosso modo.
Bah, si vous voulez, le groupe, c'est 85 000 personnes en France. On est à peu près 540 magasins.
Jean Ferry, directeur indépendant du nouveau centre Leclerc à Strasbourg.
On est aujourd'hui à l'étranger, on est en Slovénie, en Espagne, au Portugal. On a des associations aussi avec des commerçants indépendants italiens et d'autres pays. Nous sommes un groupement d'indépendants, donc c'est-à-dire c'est moi-même qui ai fait le prêt avec l'appui de mes parrains. Donc si vous voulez, pour vous expliquer comment ça marche, moi j'ai commencé mon travail en 1988 au Leclerc de Colmar, où j'étais à la déconsigne. Alors la déconsigne, les Alsaciens connaissent bien, les Lorrains un peu moins parce que ça commence à disparaître. Donc vous mettez les bouteilles vides dans des casiers qui repartent après directement chez Kronenbourg, chez Heineken et ainsi de suite. J'ai gravi les échelons et j'ai été formé à ce métier par mes parrains. Et quand il a fallu faire les prêts bancaires, parce qu'aujourd'hui c'est un investissement quand même, la totalité de l'agencement du magasin à plus de 10 millions d'euros, moi seul, je ne pouvais pas faire cet investissement, donc il me fallait des garanties bancaires. Et c'est les parrains avec qui j'avais travaillé qui m'ont donné cette opportunité de créer mon entreprise et puis de l'exploiter. Voilà, donc c'est un parcours qui est fantastique parce que on est dans son entreprise, on monte son équipe, on est décisionnaire de A jusqu'à Z. Les trois choses qui sont importantes qu'on doit au mouvement, nous, c'est bien sûr les prix, parce que c'est notre leadership. Hein, on doit être de toute façon, quoi qu'il en soit, le moins cher de son secteur. Ça, c'est impératif et si possible, le plus largement possible.
Une entreprise comme Leclerc réalise en France un chiffre d'affaires de l'ordre de 30 milliards. Auchan, autour de 16 milliards. Et pour des sociétés comme Auchan ou Carrefour, plus de la moitié du chiffre d'affaires est désormais réalisé à l'international. Donc on va dire que... Auchan, avec l'international, fait plus de 30 milliards et Carrefour, plus de 50 milliards. Et le nombre d'employés pour une société comme Auchan est de plus de 100 000.
Les concurrents, les Strasbourgeois les connaissent bien, puisque vous avez le groupe Auchan qui détient Auchan Haute-Pierre, Auchan Ilkirch, toutes les Galeries Gourmandes, tous les Attaques et tous les Simply Market, qui est archi-leader sur Strasbourg. Le seul concurrent, on va dire, qu'il a, c'est les Ronds-Points. Et au nord, on a Cora Mundelsheim. En dehors de ça, la ville est cernée par ces trois enseignes, on va dire ces deux enseignes qui sont Auchan et Ronds-Points. Et il y avait effectivement une politique de prix qui était au-dessus de la moyenne nationale. Les dernières tendances donnaient entre 5 et 7% plus cher que la moyenne nationale. Alors aujourd'hui, il y a deux négociations possibles. Hein. Il faut bien prendre en compte qu'il y a la négociation avec les fournisseurs nationaux, qui sont devenus quand même des grands groupes, hein, qui sont quand même beaucoup plus puissants que nous. Et il y a les fournisseurs locaux. Donc avec les fournisseurs locaux, nous aujourd'hui, on a traité des tarifs terminés. Hein. On va les laisser vivre, bien sûr, parce qu'on a besoin d'eux pour concurrencer les fournisseurs nationaux. Et puis les fournisseurs nationaux, ça se passe au niveau national et au niveau régional. Avec notre poids global national, puisqu'on a plus de 17% de part de marché et on est leader, c'est vrai que la négociation est de temps en temps arde.
On est a priori dans un système libéral où chacun défend ses intérêts. On trouve chez les fournisseurs le même type d'entreprise que dans la distribution, c'est-à-dire des entreprises capitalistiques qui a des actionnaires qui s'attendent à avoir la meilleure rémunération possible. Alors je passe sur les 15% de rendement sur les capitaux investis dont on a souvent parlé, mais que ce soit des entreprises de distribution ou des entreprises de fabrication, elles sont logées à la même enseigne. Et on attend les mêmes retours sur investissement pour les deux types d'activités. Donc, ces deux types de sociétés se battent avec chacune leurs armes et défendent au mieux chacune leurs propres intérêts. Alors, jusque-là, il n'y a rien à redire. Si on prend une société, je ne vais pas toujours parler des mêmes, mais il n'y en a plus beaucoup, donc je suis obligé de répéter inlassablement les mêmes enseignes, c'est-à-dire Carrefour, Leclerc, Auchan. Ces sociétés, quand elles s'adressent à des sociétés comme Procter, Levert, Danone, qui sont elles-mêmes des sociétés qui ont un quasi-monopole sur leur type d'activité, et qu'elles se battent comme des chiffonniers pour avoir les meilleures conditions possibles de part et d'autre, c'est-à-dire pour le distributeur d'avoir les prix les plus bas et pour l'industriel d'avoir le référencement le plus important. Quels que soient les moyens employés, les moyens de pression, j'entends, moi, a priori, je ne vois pas ce qu'on peut reprocher ni aux uns ni aux autres. Si L'Oréal veut à tout prix avoir 350 références dans un hypermarché et fait pour cela des conditions extrêmement intéressantes, même si, a priori, le consommateur, il n'a pas vraiment besoin de tous ces produits, mais l'industriel, il sait que plus il en a en vente, en présentation, plus il aura de chiffre d'affaires. Donc il va tout faire pour avoir le plus de produits possible diffusés dans un point de vente. Et pour ça, il est prêt à payer. Et il est prêt à payer le distributeur, c'est-à-dire il est prêt à lui consentir des avantages qu'il ne va peut-être pas consentir à d'autres. Et donc on peut dire, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'une société comme L'Oréal consente des avantages à une société comme Carrefour qui du jour au lendemain est capable de lui référencer ses produits dans la plupart des pays du monde puisque Carrefour est présent dans beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est un très gros avantage pour un industriel et il va payer pour ça au même titre qu'il va payer pour faire de la publicité à la télé, dans les magazines, etc. Donc là, on va dire que ça fonctionne effectivement très bien et c'est un problème de rapport de force. Alors, effectivement, à un moment donné, on peut s'interroger, est-ce que le rapport de force, il n'est pas trop en faveur de l'un ou trop en faveur de l'autre ? Parce que effectivement, à coup de rachat de société, il faut savoir que Procter a racheté Gillette, a racheté d'autres entreprises, et que les distributeurs ont également développé ce genre de concentration. À un moment, peut-être que les lois de la concurrence qui sont nécessaires au système libéral et capitaliste ne fonctionnent plus. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas loin de ce niveau de rupture. We'll be right back. pour la partie gros industriel contre gros distributeur, bon, c'est une guerre extrêmement sévère, mais qui finalement, on s'aperçoit avec le temps, a profité largement aux deux, puisque ils se sont tous développés et ont aujourd'hui une valeur extrêmement importante, en tout cas en bourse. Là où le problème se pose un peu différemment, c'est quand il y a 5 ou 6 centrales d'achat qui négocient avec des milliers de PME. Et là, le rapport de force est indiscutablement en faveur de la grande distribution. Et donc, il y a un vrai souci, un vrai problème. Le nombre de PME qui ont résisté avec leurs produits et leurs conditions et qui ont survécu est finalement assez rare. Et beaucoup y ont laissé leur peau.
Nous, en Alsace, on a une entreprise bien connue qui s'appelle Les Pas de Grand-Mère.
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
Donc avec des œufs frais au kilo, etc. On était sous-vendeur de pâtes Panzani, de pâtes standard et de pâtes premier prix. Et bien aujourd'hui, les pâtes premier prix et les Panzani ont eu un développement considérable et on se retrouve avec des marques qui, où il y a un petit peu moins de consommation dessus. Du fait, mais c'est des produits qui sont totalement différents. Il y en a, ils ont 6, 7 œufs frais au kilo, d'autres n'en ont pas du tout. Donc on a des produits qui sont différents. Mais la société M. Burger, elle emploie, je ne sais pas, 100, 150 personnes à Marlenheim. Et il ne faut pas qu'on... C'est en Alsace qu'on est les premiers consommateurs de produits fabriqués par des entreprises alsaciennes.
Alors c'est vrai que c'est une culture d'entreprise, hein, depuis tout petit, puisque moi j'ai commencé à 18 ans, on m'a inculqué ça dans la tête. Aujourd'hui, les collaborateurs proches qui sont cadres sont aujourd'hui des gens qui viennent du mouvement, d'accord, du mouvement Leclerc, qui était dans différents Leclerc de la région, voire France. Et les chefs de rayon, on les a, ou c'était des gens qui étaient au chômage, qu'on a repris, ou c'était des gens qui avaient du potentiel et on les a fermés, ou c'était des gens qui venaient d'une autre enseigne, tout simplement, qu'on est en train de former à la culture Leclerc, à l'achat, en promotion, pour vendre le moins cher possible, et ainsi de suite, le stockage, ce qui fait notre politique qui est perpétuellement agressive.
Et il y a des sociétés plus petites qui ont, par exemple, un fromage. Alors, pour peu que... Le producteur se laisse un peu leurrer par des promesses de chiffre d'affaires et qu'il consente des réductions, des remises un peu trop importantes et qu'il finisse par confondre, par se tromper entre... Il se dit, bon, je perds un peu sur chaque produit, mais je vais compenser par la masse. Et puis, au bout d'un moment, assez rapidement, il va s'apercevoir que c'est un gouffre et il n'y a plus de possibilité de faire marche arrière parce que quand... Alors c'est vrai que très rapidement, ça peut faire une partie de son chiffre d'affaires considérable. Et puis, et il ne peut plus se permettre de le perdre, ce chiffre d'affaires. Donc il va consentir de plus en plus d'avantages. Et à un moment, il ne pourra plus rentabiliser son entreprise. Donc à ce niveau-là, il y a un vrai souci. Si les petits distributeurs représentent effectivement un nombre important, les petits fabricants sont importants en nombre, en pourcentage de chiffre d'affaires. En alimentaire, je pense que ça ne dépasse pas 20% du chiffre d'affaires. Mais ça représente probablement 80% des fournisseurs, mais seulement 20% du chiffre d'affaires.
Là, si vous voulez, on est à l'entrée du magasin, vous avez un accueil.
Jean Ferry, directeur indépendant du nouveau centre Leclerc à Strasbourg.
Les personnes rentrent par là, montent directement du parking, arrivent sur un endroit qui est très large puisqu'on a 10 mètres d'allée centrale. Hein. On a tout de suite à leur gauche, ils ont tout l'espace culturel. Donc ils sont en train d'implanter les livres, on a les livres, la papeterie. Vous voyez que dès l'entrée du magasin, on a une vue globale sur le magasin. On a privilégié un maximum les rayons bas pour qu'il y ait un maximum de visibilité puisqu'on voit la cave à vin là-bas au fond qu'on va vous faire visiter. Quand on monte dans l'allée centrale, vous avez aujourd'hui tout le technique. Donc c'est le culturel, le technique, toute la micro-informatique. On a une famille de produits où on a tout rassemblé, les produits pour les bébés, les enfants.
Le système de la grande distribution en France, enfin en tout cas de l'hypermarché, c'était au départ assez inédit.
Paul Capler, ancien cadre dans la grande distribution.
C'était même un concept typiquement français et on va dire qu'il a été inventé par Carrefour. On le retrouve aujourd'hui dans la plupart des pays du monde. Ce système, c'était grosso modo tous les produits sous le même toit. Et aujourd'hui, on va dire que dans un hypermarché de 15 000 m² environ, ce qui est une taille d'un très grand hypermarché, on va trouver presque 100 000 références alimentaires et non alimentaires. Enfin, surtout non alimentaires, puisque l'alimentaire, grosso modo, ça va être de l'ordre de 15 000 références et le reste, ce sont des produits non alimentaires. Alors ces produits sont disposés dans le magasin, on va dire, de la façon qui permette de réaliser le plus grand chiffre d'affaires possible et de faire revenir les clients le plus grand nombre de fois possible. Alors, il y a eu à cet égard une évolution par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, puisque à une époque, on se disait le client vient pour la journée, on lui fait faire le tour du magasin pour qu'il soit obligé d'acheter un peu partout. Donc, ça supposait qu'on disperse grosso modo les produits dans le point de vente de façon à obliger le client à faire le tour. Donc on mettait un produit de première nécessité, on va dire le papier toilette, dans un coin du magasin et les eaux minérales dans le coin opposé. Donc on était sûr qu'il va faire le tour.
Vous avez le textile, hein, donc un textile, on va dire normal, avec du permanent et du saisonnier, qu'on va travailler en opération avec des prix percutants et des opérations dynamiques. C'est un secteur qui se développe, mais c'est vrai que le prix moyen est à la baisse. Donc aujourd'hui, pour faire les mêmes chiffres d'affaires qu'il y a un an, deux ans, trois ans ou quatre ans, ça devient difficile. Mais c'est un secteur porteur aujourd'hui. Voilà. À votre gauche, vous avez tout le saisonnier ici, donc qui sera travaillé en opération pour l'ouverture. Vous voyez d'ailleurs les offres très alléchantes de l'ouverture. On arrive ici en parfumerie, d'accord ? Donc lieu stratégique, puisque là, il va falloir qu'on se batte contre les Allemands. Hein, donc vous avez des tablettes vertes rétro-éclairées, on a essayé de faire vraiment quelque chose de qualitatif. Toujours des rayons bas pour qu'on ait une visibilité complète. La signalétique au fond qui signale dans quelle famille de produits on est, avec les photos au-dessus du rayon. Donc pour le consommateur, ça va être hyper agréable.
Aujourd'hui, on est plutôt dans un système différent puisque statistiquement, le client a grosso modo réduit le temps passé en hypermarché de moitié en 20 ans. Et donc, si on l'oblige à faire le genre de gymnastique que j'ai décrit tout à l'heure, ben, il ne va plus venir. Donc il faut lui faciliter la vie et on va dire qu'aujourd'hui, on regroupe plutôt les produits qui sont sur sa liste de courses dans un espace assez réduit et de façon à lui permettre librement de se balader dans le reste de l'univers de l'hypermarché s'il le souhaite. Mais on ne l'oblige plus à le faire. Et c'est à ce prix-là qu'on peut le faire revenir. Il faut dire que c'est extrêmement complexe de définir les emplacements des produits parce qu'il y a des contraintes lourdes, notamment pour tous les produits frais. qui ont des espaces qui ne peuvent pas être bougés facilement. Les produits évoluent, grosso modo, on peut dire que la gamme de produits change tous les 3-4 ans, les produits tournent, donc ce ne sont plus les mêmes produits. Il y a des familles qui se développent, des familles de produits qui se développent beaucoup, d'autres qui rétrécissent. Donc il y a une grande mutation dans les assortiments. Et donc, le point de vente s'adapte au mieux pour que le client trouve satisfaction le mieux possible. Il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, tout le temps, au niveau du marketing, des grandes enseignes, et qui cherchent quand même à faire en sorte que le client puisse trouver le plus de produits possible et les achète, en fait. Hein. C'est, l'objectif, c'est toujours, et ça, c'est une constante, c'est toujours de faire le plus de chiffres possible.
On a pris un architecte d'intérieur pour faire le magasin parce qu'on voulait donner un cachet particulier à ce magasin. C'est un magasin de centre-ville, c'est un magasin qui est particulier. On n'est pas dans une zone commerciale à l'extérieur de Strasbourg, on est en centre-ville. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose de particulier. Voilà, donc vous remarquerez aussi que les allées sont très larges. Hein. On a vraiment prévu un maximum de place pour le consommateur. Tout a été fait pour le consommateur, aussi bien la signalétique, la largeur des allées, les rayons bas. On aurait pu très bien faire comme les gros, comme les hyper strasbourgeois, monter nos gondoles jusqu'à 2,20 m. Non, nos gondoles sont à 1,60 m. Pour le consommateur, c'est quand même hyper agréable de se sentir bien dans un magasin et de pouvoir circuler librement sans avoir le chariot qui se bloque ou pas. Là, on arrive directement sur le marché du frais. Donc, on a une vue globale du marché du frais ici, hein, qui est à votre gauche dans l'allée centrale. Vous remarquerez qu'il y a une différence de carrelage. Donc, le carrelage est gris anthracite. Hein, c'est très joli, d'ailleurs. On a tout notre mobilier en inox, hein, pour qu'on ait vraiment quelque chose de qualitatif. Les fruits et légumes seront brumisés. Et puis, on aura des familles de produits qui seront dans des paniers en osier pour donner... de la chaleur, de la fraîcheur, tout ça à ce rayon.
Il y a quelques années, les supermarchés, donc on disait, on a des supermarchés de 1200, 1500 mètres carrés.
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
On était 20% des dépenses en France se faisaient sur les produits alimentaires. Donc il y avait des rayons traditionnels très importants avec des circuits de distribution relativement courts. Dans chaque grande ville, on avait des abattoirs, on avait des charcutiers qui étaient de proximité, etc. La consommation, elle a complètement évolué. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont besoin de sécurité, de communication, d'indication, de culinaire, de tout, de diététique, etc. Donc, et la déstructure des familles a fait que la déstructuration, si on veut, des familles, avec tout le monde qui travaille, on s'occupe un peu moins des enfants par rapport à une éducation comme on a pu recevoir il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Donc, on est beaucoup plus absent du domicile. Donc, quand on rentre, je vais prendre un exemple relativement bête, mais des tranches de jambon. Moi, je pense, ma mère ou ma grand-mère, on allait à la charcuterie, enfin, on prenait des tranches de jambon. La charcutière, elle les coupait au trancheur. Elles étaient mangées dans les deux jours. Aujourd'hui, on achète tout en libre-service, avec une date limite de consommation qui va y avoir. Il va y avoir 10 jours, 15 jours de DLC. On ne sait pas dans deux jours ce qu'on va manger. Donc, on se garantit, en se disant, je me garantis aussi de la sécurité de mes repas futurs. Et puis, mais seulement, la différence de prix, elle s'est aussi accentuée. Puisque le marketing a pris le pas aujourd'hui dans toutes les grosses entreprises, c'est bien souvent le service marketing qui dirige, c'est pas le service commercial. C'est bien souvent les PDG des très grosses entreprises qu'on rencontre, du CAC 40, etc., ont bien souvent un cursus marketing.
Le raisonnement globalement, c'est de dire il faut que j'augmente la marge le plus possible et que j'augmente le chiffre le plus possible. Et ceci est valable sur l'ensemble de la gamme des produits. Donc à tout moment, je dois pouvoir améliorer mon chiffre, je dois pouvoir améliorer ma marge. Il n'existe pas de société dans la grande distribution enfin de points de vente, où on dit bah, le chiffre de l'année dernière, il était bien, la marge, elle était suffisante, cette année, on va faire la même chose. Ça n'existe pas. C'est un peu comme dans tout le reste, c'est jamais assez, et il faut toujours plus de résultats. Donc, il faut le chercher partout, on peut le chercher. Alors, si c'est trop difficile de traiter avec les gros, eh bien, on va se rattraper sur les petits. Et c'est parfois un aveu de faiblesse, mais quand on est contraint et forcé, je pense qu'on peut se laisser aller à ce genre de choses.
C'est quoi ça? C'est le meuble?
Bonjour.
Il est horrible. Vous allez essayer de le mettre ou ça va bloquer là-bas? Ça n'ira pas. Hein.
Vous avez un souci ouais, avec l'allée?
Je pense. On va regarder. Mettez-le, je viendrai voir. Mais mettez-le.
Il est regrettable que les rayons traditionnels soient un peu en désuétude vis-à-vis des consommateurs. Mais c'est de notre faute, parce que nous, on n'a pas réussi non plus à former notre personnel, à accentuer la formation. Aujourd'hui, les crèmeries ont disparu. Et nous, dans nos entreprises, on essaye de concilier à la fois les productivités, parce que malgré tout, j'ai besoin de rentabilité dans mon entreprise. Je suis pas une œuvre, j'ai pas des œuvres sociales. On a eu tort, peut-être, d'occulter la formation de certains de nos rayons traditionnels.
Au fond du magasin, donc je vous avais dit, nous avons tout le rayon liquide et tout le rayon épicerie. On a créé une cave à vin, donc je vais vous y emmener, qui est très qualitative. C'est une cave à vin qui fait à peu près 60 mètres carrés, qui est totalement réfrigérée, avec une porte automatique devant. On a prévu à l'intérieur de cette cave à vin plus de 200 références en vin fin. Donc vous voyez, la porte s'ouvre, on se retrouve dans une ambiance de cave. C'est quelque chose qui est vraiment magnifique parce qu'on a un bois qui a été choisi par notre architecte qui est superbe, le carrelage gris anthracite. Le plafond est en couleur lit de vin. On va mettre encore des paysages de vignes pour agrémenter tout ça. On a un petit coin dégustation avec un évier pour les verres où on aura trois sommeliers qui seront en permanence ici. D'accord ? Donc on va monter très haut en gamme. Hein. On a du Château Talbot, du Château Aubryon, du Yquem, du Champagne. Et ça sera effectivement, on va le fermer ça sera fermé avec du fer forgé pour cette partie de vin-là, bien sûr. Mais les consommateurs pourront accéder à cette cave à vin librement et choisir leur vin pour le week-end, pour une soirée. La fourchette de prix va aller de 8-9 euros, on va dire, hein, à 500, 600, 700 euros la bouteille. Donc si vous voulez, on a des vins, on a un rayon vin que vous voyez juste devant, qui est pas un rayon vin basique, parce qu'on ne peut pas l'appeler comme ça, mais qui est un rayon vin normal d'un hypermarché, où vous retrouvez les vins d'Alsace, les muscats, des prix très compétitifs, des champagnes, des créments, des bourgognes, des bordeaux. Et vous avez cette petite espace qui fait 60 mètres carrés, où là, vraiment, on a voulu monter en gamme. En termes de prix, ce n'est pas parce qu'on va vendre des bouteilles à 100 euros qu'on ne va pas avoir le même esprit que ce que je vous parlais avant, c'est-à-dire l'esprit des prix bas, l'esprit Leclerc. Ce sont des bouteilles qui seront bien sûr moins chères qu'ailleurs.
Notre vocation de distributeur discount est de vendre le plus possible. Donc la massification des volumes fait que on doit pouvoir avoir de la croissance. Alors, il y a des marchés qui sont toujours émergents et il y a des marchés qui sont descendants.
Le consommateur, il a sûrement aujourd'hui à sa disposition trop de tout. C'est-à-dire qu'il a sûrement trop de produits à marque, il a trop de produits premier prix, il a trop de produits à marque de distributeur. Et d'ailleurs, pour confirmer cette affirmation, le succès du hard discount, qui n'a pas été démenti jusqu'à présent, tient en grande partie à la simplicité de son offre. Il y a, on va pour simplifier, dire grosso modo 1000 références dans un magasin de hard discount et qui sont Lidl, Norma, Aldi. C'est en général un besoin, un produit. Dans certaines enseignes, on commence à rajouter quelques produits de marque ou à multiplier le nombre de références. Mais dans l'ensemble, la théorie de base, c'est quand même ça.
Entreprise, on recherche un taux de performance, tout le monde va chercher la meilleure rentabilité, etc.
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
Donc après, il faut qu'on arrive à concilier à la fois on est des entreprises citoyennes, parce que en aucun cas on pourra se délocaliser, aller en Pologne, aller dans les pays émergents, etc. Donc moi, mon entreprise qui me fait vivre, qui fait vivre mes salariés, elle est à Reichshoffen. Donc il faut que je concilie à la fois les entreprises alsaciennes qui emploient du personnel à proximité de mon entreprise. Il faut à la fois que je concilie le territoire national et j'ai pas le droit d'occulter la mondialisation avec des produits qui sont bataillés, parce que on n'est pas dans un monde sans concurrence. Malheureusement ou et très heureusement, il y a de la concurrence.
Cette contrainte, elle pèse.
Paul Kapler, ancien cadre dans la grande distribution.
Surtout les employés d'un magasin qu'ils soient au niveau le plus bas de l'échelle jusqu'au directeur. C'est-à-dire ils ont tous un objectif, c'est le chiffre. C'est un leitmotiv, c'est tous les jours où en est le chiffre, pourquoi on n'a pas fait plus de chiffres, où en est la marge, etc. Donc il y a une pression extrêmement forte concernant le chiffre. Et n'importe quel employé d'un hypermarché peut témoigner sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'il y a une pression du chiffre.
Je suis très fier de ce centre Leclerc. C'est vraiment un magasin magnifique.
Michel-Édouard Leclerc, président des centres Leclerc.
Puis vous me permettrez de dire un petit merci aussi à quelqu'un que vous ne connaissez pas bien ici, qui est le secrétaire général de notre association, Stéphane de Prunelet, qui n'écoute jamais mes discours, parce que comme on inaugure 20 ou 30 magasins par an, il commence à en avoir ras-le-bol. Mais pendant cela, je suis sûr qu'il est en train de relever le prix dans les rayons, et il regarde les produits. Et je voudrais lui dédier aussi cette inauguration, parce que dans ce projet, il s'est beaucoup, beaucoup impliqué avec Jean-Pierre, et quelquefois dans la discrétion, puisque c'était compliqué de sortir ce projet. Voilà. Et puis, un magasin comme celui-là, c'est évidemment une équipe d'entrepreneurs, c'est des patrons qui ont mis de l'argent, etc. Mais ça ne peut atteindre cette qualité d'accueil que si derrière et devant, d'ailleurs, ou pendant, il y a une grosse équipe, et pas que des gros, d'ailleurs, il y a une équipe enthousiaste qui peaufine tous ces merveilleux fruits et légumes, ces rayons poissons. Et donc c'est vous les tâcherons de nos métiers. C'est grâce à vous que ce magasin est aussi beau. Donc c'est vous en premier qu'il faut féliciter, parce que c'est vous qui allez attraper les coups en plus quand les clients seront pas contents. Ils iront certes voir la direction, mais c'est sur vous que ça va retomber. On connaît, hein, je sais pas si j'ai fait quelques stages aussi dans la distribution Once Upon a Time, il y a longtemps. Donc soyez félicités, soyez remerciés de ce travail. Alors je sais que là vous avez particulièrement bichonné pour nous ce soir. Bon, c'est nickel et tout, mais ça va être vachement dur de tenir la hauteur de tomate passé 3 ou 4 heures d'ouverture du magasin, hein. Donc je voudrais vous féliciter. J'ai pas pu regarder tous les rayons, j'ai pas pu aller regarder le rayon textile. J'ai surtout apprécié pour le moment les bandes de produits frais. J'ai vu le rayon poisson. J'ai vu aussi une grosse présence de produits alsaciens ici. C'est le choix que vous avez fait. Alors, mon camarade Zer, nouveau partenaire et ami des COP d'Alsace, me disait: Michel, tire pas sur les fournisseurs ici en Alsace, on a un consensus, on est bien, etc. Ouais, mais vous êtes une région des plus chères de France, mec. Voilà. Alors, le consensus amical, ouais. La prime donnée j'ai près de moi. La prime donnée aux régionaux, oui, hein, et aux Alsaciens en l'occurrence, oui. aux Alsaciens et aux Bretons, oui. Mais je suis bien d'accord avec toi. Il ne s'agit pas de lancer un rapport de force avec l'agriculture et avec les PME, etc. Mais par contre, les grandes marques industrielles se sont bien servies sur le dos de la crise. On nous a fait miroiter, on a argumenté sur la hausse des matières premières, blé, céréales, transport, produits laitiers, pour justifier des augmentations tarifaires. Bon, maintenant que le marché se retourne, c'est ça que j'ai voulu dire. Ok, il y a des hausses qui étaient légitimes et sur lesquelles on ne peut rien parce que c'est le marché mondial. Mais maintenant que le marché se retourne, il faut faire profiter le consommateur de baisses de prix, et pas simplement de promo d'ailleurs, de baisses de tarifs et de baisses de prix tangibles. Alors la nouvelle loi pour laquelle on s'est battu, la loi LME, nous le permet. Elle nous permet de négocier les tarifs des industriels. Elle nous permet de répercuter aux consommateurs ces conditions d'achat et tout ou partie de notre marge. Donc la responsabilité, maintenant, elle est dans notre camp, mais elle est aussi dans le camp des industriels. Et donc je ne cherche pas à faire des polémiques inutiles et à chercher des boucs émissaires, mais tu seras d'accord avec moi, parce que tu as cet esprit solidariste fort qui caractérise le mouvement COP, auquel nous nous rattachons. La réalité, c'est que la crise... la baisse du pouvoir d'achat, les consommateurs et les salariés se l'ont pris un pot déjà depuis 2-3 ans, hein. Mais avec la crise internationale, on va avoir des relents encore pires. On va avoir une deuxième année de baisse de pouvoir d'achat parce que l'immobilier, ça va se casser le nez au moins une partie. Tout ce qui est accès à la propriété, y compris automobile, ça va être dur. Donc ils vont licencier. Même la banque va resserrer non seulement ses conditions de crédit, mais sa politique sociale. Donc ça va pas être facile l'année prochaine. On va pas souffler sur les braises, mais donc nous avons une mission sociale, nous avons une mission première en tant qu'entrepreneur. D'abord, c'est dans ce monde qui est un peu gris, c'est d'être contre-attaquant et de dire que nous au moins on a la volonté de repartir à l'attaque. La deuxième idée, c'est que quand même de dire à toute la chaîne, on va tous faire des efforts pour garder le capital confiance qui est celle de nos enseignes respectives et qui nous a fait que tous les deux, on est partenaires.
Si nous avons fait ce partenariat, c'est parce que nous devons améliorer notre performance prix, et Michel Huard l'a dit fort justement.
Yves Zer, président de COP Alsace.
Ce qui nous attend sur le plan économique, c'est pas rose. Nous allons vers une certaine déconsommation, nous allons vers des difficultés en termes de pouvoir d'achat, et le client de plus en plus aura besoin de trouver le prix bas. Alors après, et là Michel a tout à fait raison quand il dit les fournisseurs se sont un tout petit peu gavés l'année dernière déjà, et puis en début d'année aussi, là tous les fournisseurs se sont un peu gavés. Ceux qui avaient des grandes marques ou qui ont des grandes marques pouvaient le faire d'autant plus facilement. Et le prix du lait, le prix des céréales, le prix des carburants, enfin de l'énergie, avait bon dos. Mais ce que j'ai souhaité dire ce soir, c'est que, en fin de compte, il y a deux types de fournisseurs. Aujourd'hui, un Unilever, un Procter, un Danone, un Nestlé a un produit incontournable. Et il peut faire ce qu'il veut avec ses prix, parce que le consommateur qui subit la pression publicitaire, il suit. Et là, Michel a raison. Il ne faut plus accepter de hausse de ces gens-là. Par contre, les régionaux, ce ne sont pas des leaders. Et comme ils ne sont pas leaders, pour garder leur part de marché, ils ont toujours été honnêtes. Ils ont toujours été dans le marché. Ils n'ont pas fait les fous avec les hausses de prix. Et là, il faut que nous gardions de logique. Il faut être très très dur avec les très grands. Et il faut donner un coup de main aux petits.
Franchement, ça s'est bien passé toujours pour l'instant.
Raymond Dur, producteur alsacien indépendant.
Et moi je tiens à dire quand même publiquement que la grande distrie ne m'a jamais demandé des marches arrière. C'est vrai que c'est pas nécessaire pour eux, les marches arrière c'est la remise qu'on fait en fin d'année, en fin de trimestre. Et la grande distrie avec les produits fermiers ne le fait pas, ni les produits bio. Donc on fixe un prix qui est correct par rapport à, et cohérent par rapport aux autres magasins, et on n'a jamais discuté. Les paiements sont réguliers. De ce côté-là, je n'ai aucun reproche à faire. On fait de temps en temps une promo de 5%, 10% d'animation, mais point la ligne. Nous, on fixe le prix une fois par an, en fonction de la conjoncture et des autres concurrents. Et ils passent et il n'y a aucune discussion à ce niveau-là. Alors que des grands groupes ont beaucoup plus de mal, parce qu'en fait, quand un produit Danone est connu et toutes les chaînes vendent par exemple à 1 euro, personne n'a envie d'être moins cher, parce que c'est des références. Alors que les produits de la ferme dure, ce n'est pas une référence au sens les gens font moins attention au prix de notre fromage.
Les COP d'Alsace ont une très belle image, et notamment autour de la proximité. Il faut capitaliser sur cette image, ce rapport de confiance, pour mettre toute notre énergie pour rassurer les consommateurs. Et puisque vous êtes venus vers nous chercher du dynamisme commercial, nous aussi, on n'a pas. Enfin, l'inflation, il ne faut pas qu'elle passe par nous deux. Hein, voilà. Et donc, l'enseigne Leclerc, que ce soit Leclerc, les Leclerc existants, ou tout ce que nous allons développer avec les COP d'Alsace, nous devons avoir ce message garanti que nous allons être toujours fer de lance de la défense du pouvoir d'achat. On n'est pas là pour gérer le musée de nos enseignes, on est là pour évoluer, et c'est ce qui fait qu'on a bâti ce partenariat. On va s'apprendre mutuellement pour, à la fois dans la proximité et l'agressivité commerciale, répondre à cette attente, si tu le veux bien.
À partir du début janvier jusqu'à fin mars, les ronds-points vont passer Leclerc. Mais associé à l'enseigne Leclerc, il y aura toujours une espèce de baseline, une espèce de signal qui dira que c'est un magasin qui appartient au groupe COP Alsace. Donc il y aura une espèce d'enseigne, une espèce de signalétique conjointe. Après, un certain nombre de gros supermarchés, ne sont pas très nombreux, une dizaine, passeront également à l'enseigne Leclerc, toujours avec cette deuxième sous-enseigne COP Alsace. Et puis les autres, toute la proximité, les 180 que j'ai évoqués tout à l'heure, ben ceux-là, ils resteront ce qu'ils sont, sauf qu'ils baisseront leur prix et que, quelque part, ils vendront des produits Leclerc moins chers. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est vrai que c'est une révolution, mais je crois qu'elle était nécessaire parce que le monde a changé. Alors, en termes de timing, les 7 hyper avant Pâques, la dizaine de gros supermarchés avant Noël 2009, et puis pour les autres magasins, l'assortiment se mettra en place très rapidement.
C'est un vrai partenariat d'hommes. J'apprécie tes équipes, j'apprécie beaucoup ton humanité. Et il faut qu'on trouve ensemble, Leclerc, COP d'Alsace, il faut qu'on trouve les voies de réassurance des consommateurs et des salariés et des retraités ici en Alsace, qui ne se rendent pas compte à quel point il y a un souffle négatif qui va arriver dans les prochains mois.
Il n'y a plus aujourd'hui d'excuses pour que les prix...
Paul Capler, ancien cadre dans la grande distribution.
Ne baisse pas au moins pour la partie liée aux marges arrière. Qui avait été considéré à un moment, et Michel-Édouard Leclerc s'était fait le chantre justement de cette lutte contre la loi Galland, en disant si vous supprimez cette loi, je peux vendre. Alors il a cité des chiffres qui étaient parfois peut-être un peu excessifs, mais en tout cas on peut dire que on peut vendre 2-3% moins cher.
À Strasbourg, tous les panélistes qui relèvent les prix en France. Tout le monde dit que Strasbourg est une des villes les plus chères de France. On dit que c'est la troisième en commençant par la fin. Pourtant, il y a pas mal d'enseignes, il y a pas mal de commerces à Strasbourg. Mais ce sont des enseignes qui se gavent, qui ne se battent pas beaucoup entre elles. Et donc, pour qu'il y ait les prix baissent, il faut qu'il y ait plus de concurrence. Et plus de concurrence, ça veut dire aussi avoir des enseignes qui sont réputées vouloir être moins chères. Et Leclerc a fait de la Bretagne la région la moins chère de France. À nous de relever le défi et de faire la même chose en Alsace.
Tout le monde est parfaitement au courant des prix.
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
Si mes prix ne sont plus en phase, du fait de l'augmentation des produits énergétiques, que ce soit les carburants, le fuel pour se chauffer, sur quoi rognent encore les consommateurs? C'est encore une fois sur les produits alimentaires. Si on n'est pas attentif aux prix, les volumes vont baisser. Donc il faut, derrière, malgré tout, il y a l'achat de consommation et on aura toujours un achat plaisir qui se fera.
Le consommateur intelligent fera de bonnes affaires partout, même dans une grande surface. Peut-être surtout dans une grande surface. Mais c'est là aussi qu'il a le plus de risques d'en faire de mauvaises aussi. Et peut-être d'acheter des produits dont il n'a pas forcément besoin.
On a des négociations qui vont être des fois ardues.
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
Comment accepter que certaines multinationales sortent du 12-15% de résultats ? Je ne parle pas de marge, je parle de résultats, alors que moi, dans mon entreprise, je suis à 1%, je sors 1% de résultats. Donc il faut qu'on puisse arriver à concilier le tout. Donc c'est vrai que après les approches peuvent être différentes en fonction des entreprises qu'on a aussi en face de nous et de leur stratégie commerciale.
Aujourd'hui, nous sommes avec une centrale d'achat qui s'appelle Cora et Match, à travers de Provera.
Yves Zer, président de Coop Alsace.
Ce sont des gens de qualité, mais au bout, ben malheureusement, les fournisseurs ils réagissent en termes de parts de marché. Leclerc, avec nous et quelques autres, c'est 18% de parts de marché. La centrale actuelle, c'est 4-5% de parts de marché. Les fournisseurs ne font pas le même prix. C'est aussi simple que cela.
Très concrètement, j'ai d'abord demandé à l'ensemble des acheteurs des centres Leclerc, au niveau national et au niveau régional.
Michel-Édouard Leclerc, président des centres Leclerc.
De s'opposer aux énièmes augmentations tarifaires des grandes marques des fournisseurs. Je ne parle pas là de l'agriculture, des PME, des artisans. Je parle des grandes marques internationales. J'ai proposé qu'on mette le holà à la succession des hausses que les consommateurs ont supportées depuis 2 ans. D'abord parce que les marchés de matières premières se retournent. Hein, les industriels ont eu beau jeu de s'abriter derrière la hausse de l'inflation des matières premières pour justifier la hausse des tarifs. Maintenant que le cours du blé redescend, maintenant que le cours du pétrole repart un peu à la baisse et maintenant que les produits laitiers, le secteur des produits laitiers est plus sage, il faut faire profiter les consommateurs de ce revirement de marché et pas simplement avec des promos ou des opérations commerciales limitées, mais vraiment avec des baisses de tarifs. Donc c'est pas le moment de nous amener des hausses de tarifs. J'ai dit non, ça va grincer des dents. Mais même, je pense que nos acheteurs doivent pouvoir négocier sur ces secteurs-là, les produits à base de céréales ou de produits de lait. Il faut qu'on puisse obtenir des baisses de prix d'ici la fin de l'année. Je comprends très bien que c'est pas parce que le cours du blé descend que tout de suite le cours de la biscotte et du biscuit baisse. Hein. Il y a un temps de transformation du produit. Mais je mise sur un objectif très simple. L'inflation était de 4-4,5% en moyenne en France sur les biens de grande consommation en rythme manuel. Je veux qu'elle redescende en dessous de 2%, en tout cas dans l'offre des centres Leclerc d'ici la fin de l'année. Les premiers prix dans les centres Leclerc sont moins chers que les prix dans les hard discount allemands opérant en France, un régime fiscal identique. Et je pense que c'est même vrai aussi pour les gammes premiers prix de nos prestigieux concurrents hypermarchés. Vous savez, on a tendance à dire que le hard discount est moins cher. C'est vrai que c'est une formidable opportunité parce que ce sont des produits pas chers, mais les gammes premiers prix, tiens, je ne vais pas parler que de Leclerc, de Carrefour ou d'Auchan, sont tout à fait aussi bon marché, voire meilleur marché que les gammes de premier prix de certains hard discounters. Et donc notre objectif à nous, c'est de continuer à développer cette offre parce que ça correspond à une nécessité non seulement pour les gens les plus pauvres, mais même tout simplement, il faut que ce soit dans le choix, il faut qu'on puisse développer des gammes premier prix en France, beaucoup plus qu'il n'y en a. Et en Allemagne, il y en a beaucoup. C'est le nombre qui fait que l'Allemagne est plus attractive. Mais en termes de prix, aujourd'hui, sur les premiers prix, je pense qu'on tient largement la distance. La preuve, c'est un scoop que je vous dis. Vous savez que je dirige j'ai créé une centrale d'achat européenne avec des partenaires allemands du groupe Rewe, avec Colruyt en Belgique, avec les Coop Suisses et avec Conad en Italie. Et c'est Leclerc qui va fournir une grande partie des produits à marque de distributeurs vendus par tous ces réseaux dans tous ces pays-là.
Je crois que là, on fait une grave confusion.
Paul Kapler, ancien cadre dans la grande distribution.
En pensant que les hard discounters ont des produits premier prix et qu'il faut se battre avec les hard discounters avec des produits premier prix. Car les produits du hard discount ne correspondent pas à la notion de produit premier prix. Quand on va dans un magasin comme Aldi ou Lidl, il y a un certain nombre de produits d'ailleurs qui sont certifiés par des comparaisons de produits qui ont des certifications qualité, enfin plus précisément en Allemagne d'ailleurs, que ce soit des produits de type produits d'hygiène, d'entretien ou des produits alimentaires. Donc, et puis il y a en alimentaire d'ailleurs dans ces magasins des produits hyper sophistiqués. Enfin, quand je dis produits hyper sophistiqués, ça veut dire par exemple de l'huile d'olive pressée à froid, etc. Ou de plus en plus désormais de produits résultant de l'agriculture, donc de produits biologiques. Et donc, il faut absolument éviter de faire cette confusion. Le produit premier prix, il n'est pas au niveau, et de, loin s'en faut, qualitatif des produits des sociétés de hard discount.
Je ne veux pas occulter le fait en disant non, mais c'est vrai que les produits qualitativement de premier prix n'ont pas forcément la même qualité, les mêmes qualités gustatives que des produits un peu plus haut de gamme.
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
Et c'est logique, aujourd'hui, dans le marketing d'une... la pub télé, ça se paye, les services de recherche, parce qu'ils ont sorti des nouveaux produits, et puis le temps que ce nouveau produit s'installe, tout ça se paye. Donc la marque va avoir une valeur ajoutée qui sera plus importante. Maintenant, le premier prix, le but qu'on lui demande, c'est d'être premier prix et d'être basique. Alors, mais derrière, il y aura des produits de premier prix qui seront avec un rapport qualité-prix qui seront compétitifs. Si le prix est vraiment trop bas et que la qualité est mauvaise, je vais prendre un exemple, mais criant. La rentrée des classes. On a une liste d'Arcos avec rentrée des classes, essentiellement des produits scolaires et beaucoup de produits en premier prix. Mais la liste d'Arcos a un succès très relatif parce que les feutres à l'eau, quand ils seront morts au bout de 5 semaines, que le cahier qui doit faire toute l'année et puis qu'au mois de décembre, il est complètement déstructuré, il y a du premier prix qui existe, on en offre, on peut pas, il ne faut pas qu'on l'occulte. Il y a une partie des consommateurs en a besoin.
Alors c'est vrai qu'il y a peut-être eu, dans l'intention des distributeurs français par exemple, en lançant des produits premier prix, une idée qui était de dire, voilà, moi j'ai des produits qui sont encore moins chers que le hard discount. Ça, c'est sûrement vrai. Mais plus rien n'est comparable. C'est-à-dire, je ne peux pas comparer une Logan à une Laguna. Voilà, ce n'est pas exactement le même produit. Donc, ça peut être un produit qui répond à la même fonction. Si j'ai des pâtes premier prix, ça répond à la fonction pâtes. Mais à la demande pâte, mais ce n'est pas le même produit, et il y a un problème de matière première, etc. Et là où le problème est peut-être le plus grave, ce n'est pas dans les pâtes sont peut-être simplement moins bonnes, mais finalement, au départ, c'est toujours du blé. Je ne crois pas qu'il y ait un vrai souci à ce niveau-là. Le problème, c'est pour tous les produits un peu plus complexes, du genre biscuit ou autre, où les pourcentages de matière grasse, du type de matière grasse et autres, peuvent être quasiment dangereux. Donc là, on va dire qu'il y a un vrai souci et qu'il y a sûrement eu un gros dérapage. Et pour aller au bout du raisonnement, il y a une enseigne qui a mis en place des produits vrac, dans le but, soi-disant, de permettre aux plus démunis d'acquérir la quantité de produits qui leur est strictement nécessaire. Bon, c'est pas tout à fait ça quand même, parce que le plus gros chiffre d'affaires de ces rayons vrac est constitué par les confiseries, et jusqu'à preuve du contraire, on peut pas dire que ça soit un produit ni indispensable, ni particulièrement sur le plan... diététique satisfaisant. Donc là aussi, il y a une forme de dérive. Donc, je dirais, concernant les produits premier prix, il faut quand même être extrêmement prudent et réservé, quand le budget le permet, quoi.
La pression sur les prix, sincèrement, elle a toujours été présente. Elle a toujours été présente. Elle a été oubliée sur, je pense, la loi Galland nous a tous anesthésiés.
La nouvelle loi, la loi LME, la nouvelle loi qui a été votée au Parlement cet été, va nous donner la possibilité de faire des baisses directes de prix. Elle nous autorise à négocier les tarifs des industriels, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Elle nous autorise à répercuter nos marges directement aux consommateurs. Et donc, on sera plus obligé de passer par des promos occasionnelles.
Là où le distributeur français, en plus, était handicapé, c'est que, de par la loi Galland, non seulement on lui cédait, mettons, à 70, mais sur les 70, il y avait 20 ou 30% de ristourne, c'est-à-dire de marge arrière, qu'il ne pouvait pas appliquer aux consommateurs, puisque la loi l'interdisait. Donc, en définitive, il y a eu des écarts de prix aux consommateurs qui étaient tout à fait inacceptables.
Actuellement, nous sommes dans un rapport de force qui se crée avec les grands industriels. Les grands industriels voudraient... ont pendant longtemps dit au grand public que s'ils augmentaient leurs prix, c'était pas de leur faute, c'était à cause de la hausse des matières premières. Ce qui n'est pas faux non plus, hein, d'accord ? Mais voilà, à partir du moment où le cours du blé est descendu de 40% depuis le mois de juin, à partir du moment où le cours du lait industriel qui rentre dans la fabrication des biscuits, de tas de préparations ultra frais a baissé, eh ben, il faut aussi que les tarifs baissent en proportion. Et ce discours-là, ils ne l'ont pas. Ils ne veulent pas, comme ils disent, excusez du peu, détruire de la valeur. Et c'est toujours dur de baisser ses prix une fois qu'on les a augmentés. Ben, tant pis, il faut le faire, parce que c'est une des conditions de la réassurance pour les consommateurs. Les consommateurs aujourd'hui, qui sont aussi des petits épargnants, qui sont des retraités, qui sont des salariés, ces consommateurs ne sont pas comme aux États-Unis complètement... Ils ne sont pas en train de se précipiter dans les banques pour retirer leurs avoirs. On a une réglementation qui est plus solide. Mais quand même, ils se posent la question du futur et ils n'ont pas envie de se faire avoir. Hein. Donc il faut répondre à cette demande par une lecture directe de la baisse de prix.
Si je veux vendre un produit sur un marché où le produit bénéficie d'une grande notoriété, où il est très peu concurrencé, je peux toujours... dans une idée de dire il faut que je fasse le maximum de marge, de profit, etc., je peux me dire, voilà, je fixe le prix le plus élevé possible pour ce produit. Moi, fabricant, je suis fabricant, je sais qu'il doit être vendu à 100 au consommateur, donc je vais le vendre au distributeur 70, le consommateur va payer ce prix-là. Donc je peux le vendre 70, si ou 50. Et si je suis en Allemagne et qu'il existe un produit sur le marché qui est vendu à 80, et si je veux m'implanter sur ce marché, je suis obligé de faire des efforts pour que, à la fois, dire mon produit est meilleur, mais le fait qu'il soit meilleur, ça suffit pas forcément pour le vendre, donc je suis peut-être obligé de baisser le prix. Et c'est grosso modo ce qui se passe avec la Laquelnet, par exemple, qui est beaucoup moins chère en Allemagne, parce que L'Oréal qui fournit ce produit... le cède au distributeur allemand à des conditions qui sont inférieures à celles qu'il pratique pour la distribution française. Donc là, ce n'est pas du tout le distributeur qui est en cause. Il ne se prend pas plus de marge sur ce produit en France, mais simplement, en Allemagne, les conditions de cession sont plus avantageuses.
60 millions de consommateurs a dénoncé, ou en tout cas attiré l'attention sur les modifications de packaging indûment proposées par certains industriels. D'abord, j'ai touché du bois et j'ai bien regardé que nos marques de distributeurs et les fabricants de nos marques de distributeurs ne se sont pas pliés au même jeu. Donc ça va, je témoigne que non. Et non. Et puis c'est pas une bonne réponse à la crise. Il y a une vraie crise de confiance au-delà de la crise du pouvoir d'achat. Il y a une vraie crise de confiance entre les consommateurs et les élites en général. Et je mets là-dedans les industriels, les distributeurs et autres. Donc nous devons être très clairs sur notre réponse. Il faut que les consommateurs puissent profiter du retournement de marché des matières premières. Il faut que d'ici décembre, les produits manufacturés répercutent la baisse des marchés de matières premières, non pas en changeant les conditionnements, non pas simplement en faisant des promotions ou en offrant quelques paquets gratuits pour temps d'acheter. Non, non, avec des vraies baisses de prix directes et des vrais tarifs. Et je vais, avec tous les centres Leclerc, investir dans des campagnes de publicité, dans des actions importantes sur les 6 prochains mois, effectivement pour fustiger ceux qui voudront faire passer l'inflation par nous, hein, mais aussi pour rassurer les consommateurs sur notre rôle et notre action.
Pour résumer rapidement, je suis formateur de la grande distribution et donc on travaille sur un produit d'encaissement qui s'appelle Evolutel.
Joseph De Santos.
Qu'on installe donc sur le magasin de Strasbourg au même titre que sur les autres magasins au niveau national. Cet après-midi, le but de la manœuvre, ça va être de former les hôtesses de caisse sur un outil qu'on appelle Evolutel POS, donc qui est l'outil d'encaissement graphique et tactile au sein des magasins Leclerc. Donc ça va être une prise en main de toute la partie fonctionnelle de la caisse. De l'ensemble des modes opératoires qu'elles doivent jouer sur cet outil-là.
Je suis arrivée comme Véronique le 24 septembre.
Caroline, hôtesse de caisse en formation.
Moi, j'ai vu, je suis arrivée, pour postuler au Leclerc, j'ai vu une annonce sur le site de la NPE, donc j'ai envoyé ma candidature. Ensuite, on m'a donné rendez-vous, donc on m'a parlé du poste d'hôtesse de caisse. J'ai bien précisé que je n'avais aucune expérience dans ce domaine, donc j'ai décidé de faire un essai. Donc pour le moment, j'appréhende un peu parce qu'en fait, je ne sais pas... C'est ma première expérience aussi, tout comme Véronique, c'est la première fois que je travaille. Moi, je sors d'un BEP des carrières sanitaires et sociales, donc voilà. Enfin, c'est la peur de l'inconnu, en fait, vu que c'est un domaine tout nouveau pour moi. C'est ça, c'est vraiment la peur de l'inconnu. Mais je pense qu'une fois... que tout se sera mis en place, ça ira mieux.
Oui, bonjour tout le monde, Joseph De Santos de la société Infomil, on est à Toulouse. On va voir cet après-midi le fonctionnement des caisses que vous allez utiliser donc, dès le démarrage du magasin. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une approche déjà avec vos responsables de caisse ou pas. Elles vous ont montré un petit peu comment ça tournait. Il n'y a absolument rien de compliqué. Donc, on va voir l'ensemble des procédures d'encaissement du matin quand vous arrivez jusqu'au soir, vous avez quitté votre poste d'encaissement. Et s'il y a quelque chose sur lequel qui n'est pas clair, sur lequel il faut revenir, vous m'arrêtez et on essaiera de revenir dessus autant de fois que ce sera nécessaire. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la partie matérielle et puis ensuite on va ouvrir la caisse. On se mettra peut-être sur deux caisses de façon à ce que vous puissiez manipuler les unes et les autres. Voir l'ensemble de ces procédures-là.
Alors, au tout début, la machine, pour moi, c'était une véritable catastrophe parce que je ne comprenais rien du tout. Après, au fil de la formation, ça commence à rentrer tout doucement. Demain, on commence à 8h jusqu'à 20h.
Prenez par exemple
Josiane Rin, secrétaire générale adjointe à la CFDT Services et Commerce.
Des chaînes de Système U ou d'Intermarché ou de Leclerc, c'est plutôt des indépendants qui travaillent là-dedans, ce qui veut dire que c'est les dirigeants de chaque établissement qui ont investi leurs fonds propres pour faire tourner la boutique. Donc, ce qui veut dire aussi qu'en cas de difficultés qui surviennent, si les résultats ne sont pas là, c'est leur fonds propre qui est engagé, donc c'est eux-mêmes qui sont mis en difficulté. Ce qui génère forcément des tensions dans la gestion de l'emploi, dans la gestion du personnel. Et qui dit tension sur la gestion du personnel, dit augmentation du stress du personnel derrière et détérioration des conditions de travail, forcément. Or, dans les autres chaînes, les directeurs de magasins, donc c'est plutôt les Auchan, Simpli, Attac, Supermarché Match, j'en oublie très certainement dans la région, hein, puisqu'on parle d'Alsace, ce sont les directeurs de magasins sont salariés. Donc, ils n'engagent en aucun cas leurs fonds propres, ce qui veut dire que si un établissement est en difficulté, c'est le groupe, c'est la chaîne qui supporte les difficultés de l'établissement. Donc, ça ne génère pas forcément, bien sûr que ça génère des tensions globales au niveau de l'enseigne, mais pas au niveau de l'établissement particulier, ce qui est quand même un peu une petite garantie aux détériorations des conditions de travail.
Alors, quand on n'atteint pas le chiffre d'affaires...
Paul Capler, ancien cadre dans la grande distribution.
Ben, ça va mal, alors peut-être que dans un premier temps, on change de directeur, puisque c'est en général le premier fusible. Le directeur auparavant, il aura fait sauter quelques chefs de rayon. C'est sûr que quand le chiffre n'est pas atteint, il y a une forte pression de la hiérarchie. Alors là, je parle évidemment de sociétés, de grands groupes. Quand on est dans des sociétés plus personnelles, c'est-à-dire chez des franchisés comme Super U, Intermarché ou Leclerc, bah, le patron du magasin, c'est le propriétaire. Et donc, s'il ne fait pas le chiffre et s'il ne fait pas la marge, pour assurer la survie de son entreprise, bah, il va commencer à tailler dans les frais. Et alors, les frais, bah, c'est très simple. Il faut savoir qu'un compte d'exploitation d'un hypermarché, c'est grosso modo 70% des frais, ça va être les achats de produits. Et puis ensuite, on va dire 8%, ce sont les frais de personnel. Et puis tout le reste, après, ce sont des frais généraux. Donc, si je veux réduire les frais, soit j'agis auprès des fournisseurs tant que c'est possible, donc forte pression au niveau des fournisseurs. Donc là, j'agis sur les 70%, mais a priori, pour ça, j'ai aussi des centrales d'achat extrêmement puissantes qui m'aident pour cela. Et puis après, j'agis sur le personnel. Et du reste, on va s'apercevoir dans les années à venir, j'imagine, que ce poste de frais de personnel qui est aussi essentiellement constitué par, par les, ce qu'on appelle les hôtesses de caisse, hein, va être réduit à travers différents modèles de passage automatique en caisse. Les produits vont être dotés finalement à terme de puces radiofréquences et on passera à son caddie sans même être obligé de sortir les produits.
C'est un îlot de caisse où il n'y a plus de caissière qui est là. Le client passe lui-même ses articles et derrière, c'est juste une caissière qui surveille l'encaissement qui se fait au niveau de 4 caisses. Et ça, c'est dangereux pour l'avenir parce que vous voyez apparaître des caisses sans caissière et tout ce qui s'ensuit, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir parce qu'en termes d'emploi, on ne sait pas où on va.
Elles ont souvent des horaires adaptés au passage des clients. Alors on sait bien que les clients ils passent pas tous entre 8h et 16h, 8h du matin et 16h de l'après-midi. En fait, les gros flux de clients, c'est plutôt après le... Ça dépend des régions, mais on va dire ça va être entre 18h et 19h30. Et puis, ça sera peut-être le matin entre 9h et on va dire 9h et 11h, donc on peut très bien demander à une hôtesse de caisse de venir à son poste de 9h à midi et de 17h à 21h. Alors qu'est-ce qu'elle fait après son travail du matin? Elle va manger où? À quel prix? Ensuite, elle va revenir et comment elle fait garder ses enfants? Enfin bref, c'est un peu galère.
Ça peut être 3 heures de coupure entre les deux, hein, entre le matin et l'après-midi. Hein. C'est déjà arrivé que ce soit 3 heures de coupure. Hein.
Virginie, hôtesse de caisse en supermarché.
Moi, on m'a même déjà fait venir 3 fois dans la journée pour que je démissionne à la fin. Donc, c'est des choses pas trop légales, mais je le faisais parce que j'estimais que j'avais rien à me reprocher. Donc, je venais même des fois 3 fois. Mais ils ont le droit de vous faire une coupure de 3 heures, ça n'y a pas de problème.
Bon, moi, je suis en temps normal, je suis employée de bureau. Et ce qui m'a plu dans ce métier, c'était le contact avec la clientèle. C'est vrai qu'au départ, ça me convenait, quoi, plutôt que d'être enfermée dans un bureau.
Marie, hôtesse de caisse en supermarché.
Donc, c'est comme ça que je suis restée dans cette branche. À l'époque, ça, c'était Suma. Ça s'appelait Suma encore, donc aujourd'hui, Simpli, quoi. Donc j'ai travaillé quelques années là-bas et puis bon, aujourd'hui je travaille donc pour les supermarchés Match. Bon, ben vous arrivez, faut essayer d'être un peu au moins 5 minutes, 10 minutes avant l'heure, de façon à pouvoir mettre sa caisse en place. Et puis, donc, il faut contrôler au niveau de la caisse s'il ne manque rien, les sachets. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de sachets. Que tout soit bien en place. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes en caisse et vous restez en caisse jusqu'à ce qu'on vous dit vous pouvez aller en pause. Selon le flux de la clientèle, selon l'humeur, la volonté de la chef de caisse aussi, parce que, bon, les caissières sont quand même sous les ordres ou sous l'emprise, selon les cas, de la chef de caisse, quoi, donc qui décide quand est-ce que telle et telle ira en pause.
Bah, de toute façon, on ne lui demande pas de travailler mieux ou de travailler. On lui demande toujours de travailler bien. C'est-à-dire, on lui demande toujours de sourire. Et puis, on leur demande de ne pas faire d'erreur dans la caisse. Et donc, elles sont contrôlées sévèrement là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de mieux, il faut qu'elle soit au top tout le temps et pour des conditions de rémunération, somme toute, tout à fait insuffisantes.
C'est vrai qu'étant caissière, on ne gagne vraiment pas beaucoup, quoi.
Jennifer, hôtesse de caisse en hypermarché.
Quand on a un loyer, on a des enfants, si le mari ne gagne pas bien, on n'arrive pas. On n'arrive pas à joindre les deux bouts, ça c'est sûr. On gagne le SMIC et puis là, on a réussi à avoir une prime de caisse. Donc, on gagne un peu plus, mais c'est vrai que pour une femme seule, honnêtement, on a en dessous de 1 000 euros. Je ne veux pas vous dire la somme exacte, mais on a en dessous de 1 000 euros comme on fait un 30 heures. Hein, on ne fait pas un 35 heures. Je ne sais pas comment la femme, elle arrive à joindre les deux bouts, quoi. Donc, ça serait bien d'avoir des augmentations. Surtout toute la journée de se faire engueuler. On porte quand même des choses lourdes toute la journée, ils ne s'en rendent pas compte. Parce que les packs qu'on porte, passer à chaque fois faire le même mouvement, on a toujours mal aux épaules. Les clients qui viennent râler, bon, bien sûr, il y en a qui sont sympathiques, heureusement, mais ce n'est pas tous les jours comme ça. On a froid, on est toute la journée assise. C'est sûr que pour ce qu'on fait, je trouve qu'on ne gagne pas assez.
Vous avez les caissières qui ont un statut X, qui ont un salaire de ce statut. Quand vous prenez des indépendants, c'est le SMIC. Du début à la chaîne, pratiquement jusqu'à la fin. L'exception, c'est les responsables boucherie ou les responsables charcuterie, parce que des métiers spécifiques sont plus difficiles à trouver, les salariés spécialisés de ces métiers sont plus difficiles à trouver, et il y a une sorte de concurrence entre enseignes qui s'installe, et ils se piquent réciproquement les bons éléments, et pour se piquer réciproquement les bons éléments, ils sont obligés d'augmenter les salaires.
On a le côté salé.
Jérôme, boucher en hypermarché.
Ce qui est porc salé, c'est le porc simple, hein, foncé. Après, on a la volaille supérieure, ce qui est caille, magret de canard, foie de volaille. Ensuite, on a tout ce qui est découpe.
Bah, maintenant, quand on trouve des bons bouchers, il faut les payer.
Noé Alain, chef boucher en hypermarché.
Les bons qui sont déjà en entreprise, ben pour les prendre, soit en surenchère, et là ça paye beaucoup plus que lorsque moi je suis arrivé sur le marché. Ah, ça doit faire quand même entre 30, 35, 40% en plus que je parle pas d'un jeune qui débute, mais un boucher qui est maintenant qui connaît son métier, il peut aller au-delà des 1600 euros net en 35 heures. Alors, il faut le préciser aussi, hein, je veux dire, nous dans le temps, c'était, on ne comptait pas les heures et on ne touchait pas cette paye.
Tout le monde aimerait gagner sa vie, on aimerait tous être patron d'une entreprise du CAC 40. Hein,
Pierre Marx, directeur indépendant d'un magasin Intermarché.
Maintenant, on est râleur par vocation. Bon, moi je sais que j'essaye de faire mon boulot comme l'ensemble des distributeurs. On essaye de faire notre boulot le mieux qu'on peut. La sanction qu'on a, c'est une sanction commerciale. C'est vrai que dire demain, on souhaiterait tous vivre mieux. On le souhaiterait tous. Maintenant, la société, elle est comme elle est. On va pas réinventer le monde. Ou alors il faudrait qu'on change de modèle économique.
Donc la pression sur les prix, est-ce qu'elle est liée au consommateur? Franchement, je crois pas. Le consommateur n'a pas inventé ça. Il n'a pas inventé le système. Le système, effectivement, était basé sur des prix de plus en plus bas. Vendre de plus en plus de produits, ça veut dire quoi? Ça veut dire pousser à la consommation, quand même. Et on peut s'interroger sur la finalité de cet objectif-là. Est-ce que les gens sont de plus en plus heureux parce qu'ils achètent de plus en plus de produits? C'est des produits qui sont de moins en moins chers en termes de... parce qu'on baisse les frais, ça veut dire qu'ils sont de moins en moins chers parce qu'on exerce une pression sur les fournisseurs. Est-ce qu'ils sont de moins en moins chers parce qu'on baisse les coûts de fonctionnement et qu'on paye moins les salariés? Est-ce qu'ils sont de moins en moins chers parce qu'on se contente de marges moins élevées? Ça, c'est clairement pas... Enfin, de profits moins élevés, ça, c'est clairement pas le cas. Ça veut dire quoi, en réalité? Ça mérite d'être creusé. Donc, le consommateur, quel est son rôle là-dedans? Je crois qu'il a quand même beaucoup plus subi que subi la loi de la publicité de l'offre, qu'il n'a pas été réellement moteur. Et peut-être qu'à travers ses choix politiques et à travers ses choix personnels, il n'a pas lui non plus joué forcément le rôle qu'il aurait pu ou dû jouer.